International. Avec moi sur ce plateau à New York, Jean-Victor Nkolo du Bureau Afrique de l'ONU et via Skype de Kinshasa, Anne Encontre, représentante du HCR en République démocratique du Congo. Francisca, je vais commencer par vous. Vous étiez en Ouganda il n'y a pas longtemps et vous êtes co-auteur d'un rapport sur la situation des réfugiés dans ce pays. L'Ouganda est-il au bord de l'effondrement, comme l'indique le HCR ?
Oui, tout à fait. On est d'accord. En fait, l'Ouganda, on estime qu'il est presque débordé. Il faut reconnaître que la crise en Soudan du Sud est la crise plus grande du monde aujourd'hui en termes de chiffres. Et 1,9 million de réfugiés dans la région, dont presque 1 million se trouvent en Ouganda. Pour être exact, on parle de 950 000 réfugiés, qui est beaucoup plus de ce que l'HCR estimait pour tout le 2017. Et donc, on a besoin de façon urgente un soutien important de la communauté internationale, des agences humanitaires internationales comme le bailleur international. Et selon les Nations Unies, on a besoin de 673 millions de dollars pour soutenir la population de réfugiés, mais seulement 18% de ce chiffre a été contribué.
Évidemment, on parle de chiffres et tout, mais parlons du drame humain de cette crise. Quel est le cauchemar quotidien que vivent ces personnes, ce dont vous avez été témoin sur place, Francisca, brièvement?
Bon, et pendant les plusieurs semaines que j'étais au nord et en train d'interviewer des réfugiés qui arrivaient, je peux dire que presque et toutes les femmes que j'ai connues, elles m'ont parlé de viols collectifs, de viols comme frais pour pouvoir échapper même du pays, ainsi qu'on a commencé à parler du famine et de l'effondrement et le collapse économique.
Et on parle beaucoup de ce modèle d'accueil ougandais, hein, cité en exemple par la communauté internationale. Alors, en deux mots, parlez-nous de ce modèle et pourquoi peut-être d'autres pays, notamment en Afrique, doivent adopter ce modèle ?
Bon, comme disait votre correspondante, c'est un modèle qui permet aux réfugiés accéder à la santé, la libre circulation et accéder au travail. Ce sont des pas très importants pour pouvoir intégrer les réfugiés. Mais malheureusement, on ne voit pas ces tendances dans d'autres pays, ni en Afrique, les pays voisins, ni à l'Occident. Et en fait, c'est une responsabilité qui doit être partagée par tous les pays concernés.
Merci bien. Anne Encontre, je me tourne vers vous maintenant. Quelle est la situation des réfugiés en RDC?
La situation en RDC, nous avons 472 000 réfugiés qui se trouvent en RDC. Parmi eux, 77 000 réfugiés sud-soudanais. Et bien sûr, nous avons d'autres crises comme les réfugiés de République Centrale Afrique qui arrivent tous les jours depuis mi-mai. Mais pour les Sud-Soudanais dont on parle aujourd'hui, nous avons une situation où ils se trouvent avec les communautés hautes, c'est-à-dire les autochtones. Ils vivent côte à côte avec ces gens.
Jean-Victor, depuis décembre dernier, l'ONU tente de lever 23,5 milliards de dollars pour pouvoir financer ses programmes d'aide humanitaire cette année. Mais nous sommes en juin. Jusqu'ici, elle n'a recueilli que 6,2 milliards de dollars. C'est un quart. Et quel est le problème ?
Cette question que vous posez illustre très bien l'importance de la visite du secrétaire général Antonio Guterres en Ouganda. Il est l'un des meilleurs, un très fin connaisseur, l'un des meilleurs connaisseurs de cette question puisqu'il a dirigé le HCR pendant 10 ans. Et son arrivée aux Nations Unies, à mon avis, est une chance et une aubaine pour la communauté internationale. Et cette aubaine internationale permet à M. Guterres de parler avec une voix très forte. Et je pense et j'espère qu'il sera écouté. Quand on parle des réfugiés, peut-être qu'il faut parfois s'éloigner des chiffres et des statistiques pour, n'est-ce pas, se rapprocher de leur vécu quotidien. surprend d'Afrique. Et je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée parce que j'ai vécu cela de près. J'ai vécu dans le camp des réfugiés de Mugunga en 1994. J'étais impliqué dans la co-gestion de ce camp. Il y avait environ 400 000 personnes dans et autour de ce camp. Et quelques mois après l'établissement de ce camp, tout ce qu'il y avait comme arbres autour de Mugunga, tous les arbres ont disparu parce que les réfugiés devaient bien se chauffer, couper du bois. Il fallait construire des latrines, il fallait distribuer de l'eau, il fallait gérer les naissances, il fallait, n'est-ce pas, s'occuper de l'éducation. Il fallait aussi enterrer les morts parce qu'il y avait une crise de choléra, il y avait une terrible crise et beaucoup de gens mouraient de choléra. Il fallait les enterrer. Parfois, il fallait aussi gérer la tragédie humaine. Quelqu'un qui vous dit que sa maman est au bord d'une route et nous devions donc organiser chaque matin le ramassage des corps. C'était triste et tragique. Ce qui est triste et tragique aujourd'hui, c'est que le nombre de réfugiés augmente et les crises sont de plus en plus complexes. Donc, il faudrait, comme l'a dit le secrétaire général Antonio Guterres, que d'abord, avant tout, que les droits des réfugiés, que la Convention de Genève soit appliquée. Il faudrait aussi faire un appel à la générosité. Il ne faut jamais oublier de souligner que c'est l'Afrique, l'un des continents les plus pauvres, qui, en même temps, est l'un des continent le plus généreux. L'Ouganda en reçoit beaucoup. Pensez par exemple au Kenya, qui a beaucoup de réfugiés somaliens à ses portes. Pensez au Cameroun, qui reçoit des réfugiés non seulement dans le nord à cause de Boko Haram, mais aussi dans sa province orientale à l'est à cause de la Centrafrique.
Oui, mais Jean-Victor, je parlais de cette somme tout à l'heure. Vous savez très bien que ce sont les États-Unis qui ont déjà versé leur part, mais le gouvernement américain veut réduire ses contributions aux agences onusiennes. Alors l'avenir s'annonce-t-il plutôt morose en matière de financement pour l'ONU ?
J'espère que non, parce que le gouvernement américain et le peuple américain a toujours été très généreux. La question des réfugiés, c'est une question qui nous concerne tous. C'est véritablement accueillir son voisin, être le Samaritain de son voisin, sans avoir nécessairement à abandonner sa maison. Je pense que le gouvernement américain, qui est l'un des 193 États membres, va faire ce que les autorités américaines vont décider. Mais je pense que c'est la communauté internationale, dans un tout, qui doit véritablement se lever comme un seul homme, comme une seule femme, pour, n'est-ce pas, porter secours à l'humanité. Un jour, on peut être dans une situation parfaitement de bien-être, d'aisance, mais un jour, on peut devenir soi-même réfugié. Il ne faut jamais oublier que la route tourne et que parfois le monde nous réserve des surprises qui malheureusement sont parfois désagréables.
Vous avez parlé d'Antonio Guterres, cet homme qui était à la tête du HCR pendant 10 ans avant qu'il ne prenne les rênes de l'ONU. Alors justement, je vous propose d'écouter l'appel du secrétaire général de l'ONU à la communauté internationale.
Je sollicite l'aide des pays développés afin qu'ils augmentent leurs quotas pour la relocalisation des réfugiés, ne serait-ce qu'au niveau auquel ils étaient il y a 2-3 ans. Cela permettrait de se partager de façon efficace la responsabilité avec ceux qui accueillent des millions de réfugiés dans les pays du Sud.
À l'encontre, comment ce manque de financement vous affecte-t-il sur le terrain ? Je pense qu'on a perdu peut-être le compte. Je pense qu'on a perdu le contact avec Anne. Pas de problème. Alors, deux commentaires Facebook. Étienne Mitavo, Bounia, RDC. Le grand remède n'est pas de soulager la pression, mais de mettre fin à l'insécurité dans les pays d'où viennent ces pauvres gens. Diarra Ganoumé, Mali, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la RD Congo et le Tchad accueillent beaucoup de réfugiés. Même si les gens critiquent le HCR, je crois qu'il est là pour aider. Il faut néanmoins que le HCR fasse plus, par exemple au niveau des médicaments et de la nourriture. Partagez-vous cet avis? Je sais que l'ONU et l'agence onusienne HCR, vous partagez que peut-être le HCR doit faire un peu plus?
Le HCR fait déjà beaucoup. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les collègues du HCR qui sont sur le terrain. Oui. Ils se déploient beaucoup, ils sont très généreux et ils travaillent sans compter. Je pense qu'il s'agit véritablement que l'appel lancé par le secrétaire général soit écouté, soit entendu. Je crois qu'il y a vraiment une question de moyens et des moyens très importants, parce que quand on parle de dizaines de millions de réfugiés et de migrants, encore qu'il faut faire la différence. Pour les réfugiés, il faut appliquer, il faut respecter la Convention de Genève, il faut les accueillir. Les migrants n'ont pas les mêmes droits, mais ils ont aussi des droits. Il faut appliquer et respecter leurs droits humains. Et je crois qu'à un moment, l'argent, c'est très, très important.
Anne, en contre, votre collègue Jean-Victor a déjà répondu à toutes les critiques, donc il vous a sauvé. Alors en fait, moi je voulais vous demander, on parlait de ce manque de financement. Dites-nous brièvement, quel impact cela a-t-il sur votre travail sur le terrain, par exemple en RDC?
En RDC, si nous n'avons pas assez de l'argent et de ressources, nous ne pouvons pas construire les classes, les écoles de classe. Les hôpitaux, les centres de santé et aussi développer les agricoles qui va rendre les réfugiés autosuffisants pour eux-mêmes de faire agriculture pour cultiver les manioc et les choses qu'ils aiment manger et peut-être vendre le reste pour avoir un petit peu de sous pour compléter l'argent ou l'assistance qu'on leur donne qui n'est pas assez pour eux.
Vous êtes d'accord, évidemment.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et notre bureau, le bureau du conseiller spécial du secrétaire général pour l'Afrique ici à New York, nous allons nous rendre...
Vous avez dit le titre au complet. Hein.
Merci Jacques. Nous allons nous rendre la semaine prochaine au sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba. Et nous co-présidons le cluster, l'unité sur le plaidoyer et la communication dans le mécanisme régional de coordination. Et ce que nous allons peut-être faire, c'est apporter la question des réfugiés et la soumettre à nos collègues pour voir s'ils acceptent que ce soit un de nos thèmes, que nous en parlions, parce qu'il faut véritablement battre le tam-tam de manière utile sur cette question de réfugiés. C'est exceptionnellement important.
Battre le tam-tam, excellent. Voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine.
Vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum avec d'excellents invités. Coup de projecteur maintenant sur la crise des réfugiés. Évidemment, en Afrique, c'est le thème que nous abordons ce soir à l'occasion du sommet de Kampala sur la solidarité pour les déracinés. Il a lieu aujourd'hui et demain avec 1,3 million de réfugiés. L'Ouganda est devenue la première terre d'asile en Afrique. Mais le pays est au bord de l'effondrement, comme on l'a dit tout à l'heure. Le compte-rendu d'Eric Manirakiza.
Chaque jour, des femmes et des enfants épuisés débarquent à la frontière entre l'Ouganda et le Soudan du Sud. Affamés et déshydratés, ils reçoivent des biscuits nutritionnels à l'arrivée. Ils viennent d'au moins de 5 pays africains et leur nombre dépasse maintenant le million. Plus de 900 000 ont fui le conflit au Soudan du Sud et sont arrivés pour la plupart l'année dernière. Le programme alimentaire mondial fait difficilement face à la situation et l'accès aux services alimentaires se complique de plus en plus.
Nous avons été obligés de réduire de 50% la distribution de rations alimentaires pour le mois de mai. Cela s'explique principalement par la disponibilité physique des aliments et l'acheminement des aliments dans le pays.
Dans la colonie de réfugiés de Madi, une femme décrit son vécu.
Parfois, il nous manque l'huile de cuisson. Nous n'obtenons que de la nourriture et des haricots sans huile. Parfois, ils nous donnent la farine pour la bouillie.
L'Ouganda est connu pour son hospitalité. Les réfugiés sont accueillis dans ces colonies où ils construisent des huttes en bois et aménagent de petites parcelles qu'ils cultivent. Ils sont également autorisés à travailler. Mais l'afflux massif de réfugiés sud-soudanais coûte cher aux collectivités d'accueil. L'année dernière, ils étaient environ 2000 à arriver quotidiennement. Selon le ministre d'État ougandais pour les réfugiés, la conférence de Kampala vise à faire un plaidoyer urgent pour l'aide.
Un district qui devait accueillir 300 000 réfugiés en héberge actuellement entre 600 et 700 000. Ils se retrouvent en concurrence avec la population locale pour le bois de chauffage, pour les médicaments dans les centres de santé. Donc il y a tellement de problèmes et nous voulons que la communauté internationale nous appuie pour les atténuer.
Le gouvernement ougandais promet de ne pas fermer la porte à ces personnes en détresse, mais le pays ne peut supporter ce fardeau tout seul. Entre-temps, le Soudan du Sud continue de s'enliser dans sa crise.
Eric Manirakiza, merci bien. Et voilà, nous retrouvons maintenant nos invités de Kinshasa, Anne Encontre, représentante du HCR en RDC. Et avec nous sur ce plateau, Jean-Victor Nkolo du Bureau Afrique de l'ONU. Jean-Victor, vous le disiez tout à l'heure, et Antonio Guterres, il a été à la tête pendant 10 ans du HCR. Il participe à ce sommet. En fait, ce jeudi même, nous l'avons entendu, l'Union européenne va débloquer une enveloppe de 85 millions d'euros, soit environ 95 millions de dollars, pour assister les réfugiés en Ouganda. Donc vous pensez que cet homme va pouvoir apporter tout ce qu'il a acquis, toute cette expérience, et peut-être demain on va entendre dire que voilà, on a pu atteindre ce chiffre de 2 milliards, même si évidemment 8 milliards de dollars sont nécessaires pour pouvoir faire face à la situation sur place.
Il faut véritablement espérer que cette générosité va aller de mieux en mieux, parce que comme le disait Anne, à partir de Kinshasa, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter des médicaments, on ne peut pas construire des écoles pour que les enfants continuent leur éducation. Je voudrais ajouter que là, pour ce qui concerne l'Afrique, voilà une situation qui nous permet de dire que l'Afrique est peut-être différente des autres continents. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a souvent été peinte comme un continent négatif, mais voilà que l'Afrique fait preuve de générosité et d'un esprit positif. Mais la générosité et tout ce qui est positif a une limite, parce qu'il y a un moment où il faut acheter du bois, il y a un moment où il faut acheter des médicaments. Et je crois que l'Afrique, qui est pauvre, qui se développe, soit, mérite, n'est-ce pas, que l'on dise qu'elle montre un exemple remarquable au reste du monde, et notamment au monde riche. C'est donc dire que les donateurs devraient mettre la main au portefeuille, parce que l'effort de l'Afrique est remarquable, mais l'Afrique ne pourra pas tenir si longtemps. Quand vous voyez le poids que les réfugiés sur un pays comme l'Ouganda ou comme d'autres pays, nous en avons cité quelques-uns tout à l'heure, eh bien ce poids est très lourd. On peut porter une lourde charge pendant une partie du chemin, mais pas sur tout le chemin, tout le temps.
Mmh. Anne, on parlait de ce modèle ougandais, hein, beaucoup d'éloges, parce que Kampala offre par exemple aux réfugiés une carte d'identité, le droit de faire du commerce et un lopin de terre pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. Alors dites-nous, comment ça se passe en RDC? Est-ce que ce pays par exemple peut adopter un tel modèle?
Oui, tout à fait. En fait, Uganda, c'est un pays phare pour tous les pays en Afrique. Mais je voudrais juste ajouter que le Congo, le DRC, le RDC, ils sont en générosité légendaire, parce que depuis des années et des années, ils sont en train de recevoir les réfugiés dans tous les pays autour de RDC. Et ils arrivent dans les zones dépourvues, avec les communautés qui sont pauvres aussi, mais ils acceptent toujours avec les bras ouverts, et ils sont jamais lâché leur hospitalité, leurs principes. Et dans le long terme, le pays, même s'ils sont pas déclarés une sorte de out of camp policy, c'est ça que nous observons, nous constatons que maintenant, les Sud-Soudanais, ils sont dans les sites, ils sont pas dans les camps. Ils vivent avec les communautés hôtes et ils partagent tous leurs biens avec eux. Donc, c'est une générosité légendaire. Ils peuvent travailler, ils peuvent circuler librement, les réfugiés. Et il n'y a pas de souci pour ça, même s'ils ne déclarent pas le même comme l'Ouganda. Mais nous avons observé et constaté et tellement gratifié par les politiques de bras ouverts et la générosité des Congolais et le gouvernement.
Effectivement. Oui, beau geste de générosité. Justement, vous me tendez la perche. Alors, nous parlons beaucoup de financement par les pays riches, mais j'imagine que le mot solidarité ne s'applique pas qu'à eux, n'est-ce pas? Le patron, votre patron du HCR, met beaucoup l'accent sur le soutien que peut montrer le grand public. Alors, comment cela peut-il se faire dans la réalité?
Allez-y.
Oui, Jean-Victor.
Mais dans la réalité, il faut soutenir comme on peut les agences des Nations Unies, en commençant par le HCR, l'UNICEF pour les enfants et beaucoup d'autres agences. Je pense que c'est véritablement une question individuelle, collective. Nous appartenons tous au même village, mais il faut pas seulement soutenir avec l'argent. Je pense aussi que les États, les médias et les faiseurs d'opinion doivent aussi pousser à ce que les textes internationaux, les conventions soient respectés. Ça, c'est important. Il ne faut pas criminaliser le réfugié. Le réfugié est déjà traumatisé par toutes sortes de choses qui lui sont arrivées dans la vie. Ce n'est pas ce qu'il demande, ce n'est pas ce qu'elle demande. Je pense qu'il faut l'accueillir et l'aider. Et l'aider, cela veut dire toucher au portefeuille.
Deux autres commentaires Facebook. Mustapha Camara, Koya, Guinée. Pourquoi c'est si difficile pour les dirigeants africains de comprendre que leur population souffre? Pourquoi font-ils toujours appel aux États-Unis alors qu'ils sont eux-mêmes les vrais problèmes de l'Afrique? Et Archiduc Théodore N'Djamena, les Africains peuvent montrer leur soutien aux familles déracinées par des aides multiformes comme l'hébergement, l'emploi, la scolarisation, l'octroi des vivres et la sécurité. Voilà, et en fait, bref, la crise des réfugiés, gros casse-tête humanitaire et politique en Afrique, mais vu tous les conflits qui perdurent sur le continent, Jean-Victor, êtes-vous optimiste? Pourra-t-on vraiment du moins limiter tous les déplacements qui continuent comme ça en masse depuis des années?
Si on donne à l'Afrique les moyens, et si l'Afrique se donne les moyens, et si les conventions internationales sont respectées, je suis optimiste. Et je vais vous le dire en 15 secondes dans une petite anecdote. Oui. Je suis né à Douala dans un quartier qui s'appelle New Bell, Lagos. Lagos Market, mais ce n'est pas le nom de la ville nigériane. Mmh. C'est le nom que les migrants nigérians ont donné à ce marché de Douala, l'un des plus grands marchés au Cameroun, parce que le Cameroun, il y avait la guerre du Biafra, il y avait beaucoup de conflits. Le Cameroun accueillait beaucoup les réfugiés de tous les pays et il n'y a jamais eu de problème avec les réfugiés. L'Afrique a toujours été accueillante. Maintenant, il faut que la communauté internationale, dans ce monde globalisé, comprenne que l'Afrique doit véritablement être soutenue et de manière très palpable et très rapide. Et
Jean-Victor, toute l'expérience que vous avez avec les réfugiés, quand on voit un tel afflux, est-ce que quelque part ça peut provoquer des tensions sur les autochtones?
Assurément, parce que l'autochtone est humain et les tensions peuvent aussi, n'est-ce pas, avoir des sortes de collusions avec l'extrémisme violent. Il est facile, quand on est désespéré, d'être coopté dans une opération. On le voit très bien dans la région du bassin du lac Tchad. Donc la question des réfugiés est l'intérêt de tout le monde, pas seulement de l'Afrique. Si la communauté internationale, si les pays occidentaux, les pays du Sud, les pays émergents veulent tous vivre en paix, nous avons tous ces pays, nous avons intérêt à aider cette question, car sinon, les réfugiés et leurs problèmes peuvent se déverser dans des situations et dans des conflits ou dans des crises très violentes, dans des extrémismes que nous ne pourrons pas facilement résoudre.
Anne, cette émission tire à sa fin. Si vous avez un appel à faire, vous pouvez le faire maintenant. Donc, que voulez-vous peut-être demander aux frères et sœurs africains?
La générosité et garder l'esprit de bras ouverts pour recevoir les réfugiés, parce que on ne voit pas maintenant le moment où on voit la fin de ces conflits. Tous les jours, il y a un autre conflit et je voudrais juste faire un appel de paix et la sécurité pour chacun entre nous de vivre ensemble.
Jean-Victor?
Eh bien, je ne saurais dire mieux que Anne. Je dirais simplement le respect du droit international, la générosité, mais aussi l'argent, car l'argent parle. Et pour les réfugiés, l'argent parle vraiment.
Et donc, vous voulez que, par exemple, demain, on annonce que l'ONU, le gouvernement ougandais, donc voilà, on peut dire qu'on a pu rassembler cette somme de 2 milliards de dollars. C'est ce que vous voulez entendre?
C'est ce qu'on souhaite entendre et on souhaite que l'Ouganda, qui est un épicentre en réalité de cette crise, représente très bien et cristallise très bien l'intérêt qu'il faut apporter à cette question fort urgente.
C'est un sujet évidemment sur lequel on va revenir. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à nos collègues de Washington et New York. Petit clin d'œil à nos amis et partenaires et en Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis à très bientôt. Take care.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jemena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.